deux lectures. Est-ce que tu peux lancer le PowerPoint, Viviane, s'il te plaît? On va commencer. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la sortir. On va lire le psaume 73 en partie, parce qu'il est un petit peu long. Alors, c'est un psaume avec une particularité, même s'il y en a plusieurs comme ça. Il y a un changement en plein milieu. En fait, donc je ne vais pas lire la première partie, c'est les versets 2 à 16. En fait, c'est une longue plainte, donc c'est Asaph qui a écrit ce psaume, et c'est une longue plainte pour, il se plaint de sa vie, parce qu'en fait, ses ennemis réussissent, les ennemis de Dieu, ils sont dans la prospérité, et lui, sa vie, elle ne ressemble pas à grand-chose, quoi. Et donc, il passe ces 15 versets-là à se plaindre et à dire « Mais pourquoi les méchants y réussissent et pas moi ?» Alors que moi, je révère Dieu, je prends des coups. Voilà. Et il passe tout ce temps là-dessus. Et puis arrive un verset qui change tout, le point de bascule du récit. Et à un moment donné, il dit « Jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu. » Et on va lire la suite. Donc, verset 17. « Jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend, donc ses ennemis. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine, et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits, et l'épouvante les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. » Oui, quand j'avais le cœur amer, c'est-à-dire il y a 5 minutes, juste avant, et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Selon ton plan, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi ? Et ici-bas, que désirer, car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles, tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres. Amen. On va lire un autre passage ensemble, dans Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les premiers versets, versets 1 à 12. Je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse et on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous pouvez et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pourquoi ? Pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, et vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Amen. Pour revenir au psaume 73, donc le psaume d'Asaph qu'on a lu précédemment, ça m'a interrogé pas mal sur comment on voit notre propre vie, en fait. Comment on regarde notre propre vie. Et je voudrais te poser cette question ce matin déjà, pour commencer. Comment tu vois ta propre vie en ce moment ? Quel est le regard que tu portes sur tes circonstances ? Est-ce que ton cœur est agité ? Ou est-ce qu'il est paisible ? Est-ce qu'il est tendre et confiant ? Et brave et courageux ? Ou est-ce qu'il est dans la crainte ? Ou est-ce qu'il est sec ? Est-ce que tu es en train de te plaindre, comme Asaph, de ta propre vie ? Tu te plains de tout ce qui te manque ? Ou est-ce que tu te réjouis de chaque petite chose qui t'est accordée ? Est-ce que tu as peur de l'avenir ? Est-ce que tu es perdu et sans direction ? Ou est-ce que tu marches avec l'assurance que Dieu te tient dans sa main ? Etc, etc. Est-ce que tu es dans l'amertume ? Est-ce que tu es dans la jalousie ? Ou est-ce que tu es dans la joie et libre ? Je voudrais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, pas cette semaine, mais la semaine d'avant. Alors, le jeudi à la maison de prière, on a vécu des temps de prière fantastiques, comme tous les jeudis à la maison de prière. Venez à la maison de prière. Ceux qui étaient là, ils le savent, on a vécu quelque chose autour de l'amour du Père. Vous vous souvenez, ceux qui étaient là, vraiment, jeudi soir, il y avait, c'était tangible. On sentait le Père en train de nous aimer pendant le temps de prière. Je peux vous garantir que c'était saisissant. Et j'étais dans cet état où j'étais bien, 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 bien. Et dans cette même journée, j'ai pas moins de 5 personnes qui m'ont contacté pour me dire « Écoute, ma vie, c'est franchement, ça va pas et j'ai envie de la foutre en l'air. » 5 personnes. Des chrétiens. J'étais... Quelque part, il y avait quelque chose en moi qui disait, mais comment... Le contraste était violent, quoi, vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a l'amour du Père à dispo, mais en même temps, quand on est dans notre propre vie, ben, des fois, on est plongé dans une espèce d'état, on a envie, on se dit, mais ma vie, c'est de la... du caca. Et on porte un regard sur notre vie qui est dur. Et je crois vraiment, et ce que je veux... vous apportez, essayez, et je crois que c'est plutôt que c'est l'esprit qui va apporter ça, en tout cas je l'espère, c'est d'essayer de vous faire franchir ce point de bascule. On a besoin tous de franchir ce point de bascule, de passer d'un regard sur nos vies amères, et de nous confier dans le Seigneur, de demeurer en lui, pour que toutes ces choses-là changent. Qu'est-ce qui se passe avec Asaph, en fait ? Il entre dans la maison de Dieu. Et il se met à réfléchir. Il se met à réfléchir, mais on sent qu'il réfléchit avec Dieu à sa propre vie. Et en fait, il se passe un truc dans son âme. Il est sorti d'un endroit et il est allé dans un autre. Il est allé dans un nouveau lieu pour son âme. Et ce nouveau lieu pour son âme, c'est quoi ? C'est la communion avec Dieu. Que désirer, car je suis avec toi. Tu es mon bien précieux. Mon bien, mon bonheur, c'est d'être près de Dieu. Je suis toujours avec toi. C'est ça qui a changé. C'est ce que j'appelle le point de bascule. Il va en fait se reconnecter avec Dieu. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose dans son âme. C'est comme si son âme se déplaçait. Je ne sais pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Certainement. Vous n'êtes pas bien. vous arrivez, puis vous dites, je vais aller prier, tiens, allez. Et puis vous déversez votre pas bien au Seigneur, et faites-le. Le Seigneur a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, et je prendrai soin de vous. Donc vous pouvez y aller. Eh Seigneur, et ma femme, elle m'a fait ça. Eh Seigneur, mon travail, ah tu vois, ça marche pas. Et puis ma vie, qu'est-ce que je produis? Et puis ceci, et puis cela, je suis fatigué, je suis malade, je suis pas bien. Et puis, à un moment donné, vous communiez avec Dieu, vous dites, je sais pas quoi faire avec ça, je te le donne, change-moi. Et puis, il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi, mais, enfin si, on va l'étudier, mais il y a un changement qui se produit dans notre vie, et on repart sans ça. Et surtout, il ne faut pas repartir avec. On le laisse au pied de la croix, et Jésus transforme à l'intérieur. Et en fait, Asaph, à ce moment-là, il se rend compte que la communion avec Dieu, c'est ça qui est important. C'est ça son véritable trésor. En fait, il change d'échelle de valeur. Il change de lunettes. Il change de mesure. Sa propre vie, il ne va pas la mesurer de la même manière avant et après. Et son bonheur, c'est d'être toujours près de Dieu. Sa jalousie, son amertume qu'il avait envers ses ennemis et envers Dieu disparaissent et il découvre le bonheur. J'ai vécu plusieurs fois récemment ce point de bascule et je voudrais vraiment vous partager ça parce que je pense que Dieu veut ça pour chacun de nous. Il y a moins d'un an de ça, j'étais en dépression profonde. Et la dépression, c'est pas que je faisais pas confiance à Dieu, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose dans ma vie qui m'a fracturé l'âme. Et à ce moment-là, j'avais plus d'autre solution que d'aller voir le Seigneur. Je suis allé le voir, je dis voilà, je suis le dernier des derniers. J'ai rien à offrir, j'ai rien en moi-même. Mais toi, tu peux tout. Je ne sais pas quoi faire, mais tu vas faire les choses. Je suis brisé. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Le Seigneur, il ne cherche pas des personnes compétentes, fortes, puissantes, talentueuses. Il cherche des gens brisés qui vont dépendre de lui. Est-ce que tu es brisé? Alléluia. Alors tu es qualifié. Le Seigneur te qualifie. Si tu ne l'es pas, il va te prendre aussi, pas de problème. Mais le Seigneur, il cherche des gens qui vont dépendre de lui. Et c'est ça, porter du fruit, demeurer en Christ. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Les théologiens disent que ce passage sur le cep et les sarments, c'est le passage de la Bible le plus important du ministère de Jésus concernant ce qui est la source et ce qui fait la valeur de nos actions. Je redis parce que c'est un peu long. C'est l'enseignement le plus important de Jésus sur ce qui est la source et qui fait la valeur de nos actions. Je vais expliquer ça. Ce que j'ai découvert, c'est que Dieu est un Dieu profondément et intensément relationnel. Et moi, ça a vraiment changé ma vie de savoir que le Seigneur de l'univers voulait une relation avec moi et qu'il veut une relation avec toi. Je trouve ça totalement absurde. Je vous le dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est comme une amitié, une relation, je dis ça souvent, entre une goutte et un océan. Entre un grain de sable et une galaxie. Ça n'a pas de sens. Mais Dieu le fait parce qu'il est profondément et intensément relationnel. Et il veut une relation personnelle avec toi. Comprendre ça, ça a changé vraiment toute ma compréhension de qui est Dieu. Ça voulait dire que finalement, le résultat que moi je voulais obtenir de ma vie importe peu. Le résultat, je veux dire le succès, on pourrait dire, ou la réussite de ma vie, importe bien moins qu'être en relation avec Dieu. J'ai découvert ça aussi, quand je parle d'interprétation des rêves, hein, par exemple, je dis ça souvent. Dieu, quand il vous donne un rêve, il ne veut pas vous donner une information. Il veut une relation avec vous. Dieu, il ne veut pas seulement te dire quoi faire ou que tu ailles faire ce que tu penses que tu dois faire. Il veut être en communion avec toi. Il a mis une alliance en Jésus-Christ pour te réconcilier avec Dieu. Et cette relation-là, elle doit être constante, permanente. Le sarment, donc la branche, si vous voulez, elle est attachée au tronc, au cep, et la sève coule et ça produit du fruit. C'est ça qui produit du fruit, c'est mon attachement à Christ. C'est de demeurer à Christ, c'est ma communion avec Christ. C'est ça qui porte du fruit. Tout le reste, eh ben c'est coupé, c'est émondé. Jésus désire nous faire porter du fruit. Ça aussi, c'est absolument extraordinaire. Donc je disais tout à l'heure, le résultat importe peu. Je parlais du résultat à mes yeux ou aux yeux des hommes ou selon l'évaluation des hommes. Mais Dieu veut bien que nous ayons des résultats. Mais ces résultats sont de nature un peu différente. C'est ce qu'on appelle des fruits. Est-ce que tu te sens être quelqu'un qui peut porter du fruit pour Dieu? Ouais. Faut voir. Mais comprenez bien, cette parabole, elle est absolument fantastique. Parce que le sarment, il est fait pour porter du fruit. Tu es fait pour porter du fruit. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour l'obtenir. C'est ta nature. Si tu es attaché au cep, tu vas porter du fruit. Amen. Je vais porter du fruit. J'ai même pas besoin de m'en préoccuper. Dieu a fait les choses comme ça. Ça dépend plus de lui que de moi, d'une certaine manière. Ma seule responsabilité, c'est quoi? C'est de rester attaché au cep. Merci, Nicolas. Il n'y a qu'une seule façon, voilà ce que dit ce passage, il n'y a qu'une seule façon de porter du fruit. Il n'y en a pas 150, il y en a une seule. C'est de demeurer en Christ et qu'il demeure en nous. Dans les deux sens. C'est l'activité de notre cœur à être enraciné dans l'amour, en communion avec Christ, qui nous fera porter un fruit spirituel. Et je vous donne une référence pour aller voir dans Éphésiens 3, verset 17, qui dit que le Christ habite en vous, que le Christ habite dans votre cœur. Enraciné et fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse toute intelligence, et vous serez ainsi rempli de la plénitude de Dieu. Ouais. Amen. À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, réaliser infiniment au-delà de ce que nous pensons, à lui la gloire. Alléluia. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est clair. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Les vrais fruits d'un homme, d'une femme, d'un ministère, d'une église, ne viennent que d'une seule chose, la dépendance à Dieu. Nous sommes les bénéficiaires, j'ai dit ça quand j'avais enseigné sur la prière, vous vous souvenez? Nous sommes les bénéficiaires et lui, Dieu, c'est celui qui pourvoit. On est ceux qui sont dans le besoin et lui, c'est celui qui répond à nos besoins. C'est comme ça que ça marche. Dans quel but? Afin que notre joie soit complète. Est-ce que ta joie est complète? Ouf, ça c'est chaud, hein? Il y a le petit amen qui arrive parce que c'est automatique. Attends quoi? Deux secondes. Mais oui, on est appelé à la joie. Ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi. La communion avec Dieu, c'est pas barbant. C'est la joie profonde. Dieu veut qu'on soit heureux en lui. Waouh ! C'est une sacrée bonne nouvelle. Et en fait, il y a un truc dans la vie chrétienne. Moi, j'ai eu ça très longtemps, mais moi, j'ai un gros héritage. Il y a le boulot qu'il y a, ma parole. Mais c'était ce côté, ah, si je suis pieux et saint, bah, quelque part, je suis un peu austère, quoi, parce que j'ai le sens du sacrifice. Donc, si je donne à Dieu et que je suis heureux, je retire un bénéfice. C'est tordu, hein, comme raisonnement, mais quand je le dis comme ça... en fait, les chrétiens ont dit non, il faut se donner. Il ne faut pas regarder à soi-même, donc je n'ai pas le droit d'être heureux, en fait. Il y a des gens comme ça. Non, mais vraiment, hein, je vous assure. Et même moi, pendant longtemps, j'étais comme ça. Alors, je ne vais pas les critiquer, mais Dieu nous dit, je veux ça, afin que votre joie soit complète. Pourquoi ? Pourquoi Dieu veut qu'on soit heureux ? Parce qu'ainsi, on manifeste sa gloire. Vous voyez le mécanisme ? Je m'attache à Dieu, il produit du fruit en moi. Je lui demande mes besoins, il répond surnaturellement. C'est pas mes forces, c'est ma communion, c'est pas mon talent. C'est lui qui pourvoit. Je suis heureux, et il est heureux, puisque je suis heureux d'être avec lui. Ça marche ! Et il est glorifié par ça. Il est glorifié quand on est heureux d'être en communion avec lui. C'est logique, mais est-ce qu'on est prêt à faire de Dieu notre bonheur ? Oui, mon bonheur, c'est d'être avec mon Dieu, c'est de lui appartenir. Quel soulagement ! Ça veut dire que mon bonheur, c'est pas ce que les gens vont dire de moi, c'est pas mes circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que je sois dans l'épreuve ou dans la joie, c'est pas ça qui détermine ma joie. Ma joie, elle est en Dieu. Ma joie, elle est en Dieu. Amen. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire faire de Dieu notre bonheur ? Alors déjà, accepter sa grâce, c'est un peu le premier pas. Moi, j'ai lutté avec ma culpabilité parce que j'ai fait des erreurs dans ma vie. Et je ressasse et je dis, oh, mais je suis nul. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Et à un moment donné, je ne sais plus, dans une lecture, quelqu'un disait, mais est-ce que tu pries, je reçois ta grâce, Seigneur ? On dit souvent, pardonne-moi, Seigneur. Ça, c'est bien. On dit, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait ça. Mais est-ce que derrière, vous dites, ok, je t'ai demandé pardon et je reçois ta grâce. Ça veut dire que j'accepte gratuitement que j'ai rien à faire et que tu me gracies pour ce que je te donne, que je te confesse. Ben, je peux vous garantir que ça change vraiment la perspective des choses. Parce que des fois, je demande pardon puis je repars avec ma culpabilité quand même. Mais si je reçois la grâce du Seigneur, je repars comment ? Libre. Vous vous rappelez la parabole du publicain là, et du pharisien, je crois que c'est ça qu'on dit. Vous savez, il y en a un qui prie, merci que je ne suis pas comme l'autre. Et le pharisien, il dit ça, et puis le publicain, il dit, je suis pécheur. Et Dieu dit, lequel repart justifié ? Celui qui a dit, je suis pécheur, mais je reçois la grâce de Dieu et je repars libre. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Accepter sa grâce, se rendre disponible à sa présence, se laisser remplir pour déborder. Faire de Dieu notre bonheur, je redis, c'est accepter sa grâce, se rendre disponible à sa présence, se laisser remplir pour déborder. Et je vais évidemment vous parler de la prière. Parce qu'il n'y a pas de communion sans prière. Il n'y a pas d'alliance sans communion, il n'y a pas de communion sans relation. La relation avec Dieu, c'est la prière. Désolé. Je dis désolé parce que souvent, malgré tout, on a une image, on se dit la prière. Quelle est la. Waouh, je veux demeurer en Christ, il va falloir prier. La prière, c'est la chose la plus géniale de l'univers. Et franchement, s'il y a un truc que je veux dégager dans mon ministère, c'est ça. Voilà. C'est une sorte d'ambition. C'est pas bien d'avoir d'ambition, je sais pas. J'ai envie que, quand je vous dis prière, vous fassiez pas « Oh ». Quand je fais ça avec mes enfants, je leur dis « On va prier. Oh. » Hein ? Non ? Vous avez pas les mêmes ? Alors, rassurez-moi, vous en avez aussi des comme ça ou pas ? Ah, merci, Denis. Wow, wow. Super papa, j'ai vu que tu avais un t-shirt de super héros, super papa. Et Ah, la prière, c'est le cadeau. D'abord, la prière, c'est un don. Merci, Seigneur, pour le don de la prière. Pourquoi c'est un cadeau, la prière ? Parce que c'est la plus grande des libertés. La prière, c'est la plus grande des libertés. Qui peut prier ? Tout le monde peut prier. Est-ce que vous connaissez une activité humaine que absolument tout le monde peut faire ? Il n'y en a pas tant que ça. Qu'est-ce que tu... Vas-y, dis.
Respirer.
Respirer, ouais. La prière, c'est une forme de respiration de l'esprit. Non, mais réfléchis. Moi, je réfléchissais à ça. Ça me tue. Que vous soyez tout jeune, enfant, ou plus âgé parmi nous, que vous soyez malade ou bien portant, que vous soyez à l'étranger ou chez vous, que vous soyez bien ou pas bien, que vous soyez dans n'importe quelle situation, que vous soyez chrétien ou pas, vous pouvez prier. C'est dingue. Même si vous étiez paralysé sur un lit d'hôpital, que vous étiez incapable de bouger, vous pourriez prier. C'est dingue. C'est dingue. Et la prière, c'est quoi ? C'est parler à Dieu ? Ouais. Alors je vais aller un petit peu plus loin. On dit souvent ça, la prière, c'est parler à Dieu. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la prière, c'est parler avec Dieu, déjà. C'est, ça va dans les deux sens. C'est la plus grande des libertés, la prière. N'importe qui peut prier, tout le temps. Et pourquoi c'est génial aussi ? Parce que la prière, c'est une invitation à la joie. Car c'est le désir et l'honneur de Waouh, quelle efficacité. C'était pour que ça descende, j'allais trop vite. Donc c'est une invitation à la joie, la prière. Pourquoi ? Parce que je le redis, Dieu est le pourvoyeur de puissance dans la prière. Et nous, nous sommes les bénéficiaires dans le besoin. Et donc à lui revient la gloire. Celui qui ne... Je vais être cash avec vous. Celui qui ne prie pas ne rend pas gloire à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il ne dépend pas de lui. C'est si simple que ça. Prier, c'est dépendre de Dieu. C'est dire, je suis incapable d'accomplir des œuvres spirituelles qui portent du fruit tout seul. Donc, j'ai besoin que Dieu agisse en moi et qu'il réponde à mes besoins. Alors, je vais être très clair avec vous. Jusqu'à il y a quelques années, je ne priais pas du tout. Donc, j'étais un chrétien, hein, on est d'accord. J'ai sauvé tout le bazar, fils de pasteur, engagé dans l'église, la totale. Je ne priais pas. Voilà. Sauf, alors j'étais en région parisienne, tout ça, quand j'ai commencé à exercer mon ministère. Et bien sûr, je priais pour avoir une place de parking. Ça, oui, ça, j'étais fidèle. Comme beaucoup de Parisiens, je ne sais pas s'il y a des Parisiens ici, mais ils comprendront la souffrance que ça peut être. Et le besoin. Mais je ne priais pas. Aujourd'hui, je prie à peu près... je prie au moins une heure par jour. Je me lève à 5h30 et je commence par ça. Je me lève et je vais prier une heure avec le Seigneur. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Et quand je dis je prie, c'est pas « Allez, on va y aller parce qu'il faut le faire. » C'est une activité de bon chrétien. Ça, c'est une horreur. Hein, parce que si vous faites ça, vous ne tiendrez pas 5 minutes. Les premiers temps où je commençais à prier... Honnêtement, 20 minutes, ça me paraissait, 20 minutes de prière tout seul, au bout de 20 minutes, j'étais gavé. Aujourd'hui, mon temps de prière, c'est plus que ma joie, c'est une totale nécessité. Je peux même pas m'en passer. Je peux pas me passer de la présence de Dieu dans ma vie. Si je commence pas ma journée par prier, l'ennemi a prise sur moi. Et vous allez voir la mauvaise version de moi. Et je peux vous garantir que c'est pas beau à voir. la mauvaise version. Vous connaissez, vous avez une mauvaise version de vous-même, vous savez, un truc... Ah, non, jamais. Non, très bien, tant mieux. Moi, j'en ai une, je vous le confesse. Si j'ai pas prié... Alors, de toute façon, si un jour vous me rencontrez, vous pouvez... Ah, t'as pas prié ce matin, vous allez le voir tout de suite. Sérieusement, pourquoi ? Parce que c'est comme une respiration. Mon âme en a besoin. Mon bonheur est là. Et si je le fais pas, je dépends pas de Dieu. J'ai pas déposé mes péchés. J'ai pas reçu sa grâce. J'ai pas écouté sa voix. J'ai besoin d'un temps à part avec Dieu. J'en ai besoin. Mais je suis aussi conscient que je suis passé par un chemin. Quel que soit l'endroit où tu en es aujourd'hui avec la prière, que tu aies fait ça jamais de ta vie jusqu'à aujourd'hui, ou que tu sois quelqu'un qui prie, qui est un homme ou une femme de prière, on sait tous qu'il y a un chemin à prendre, d'accord ? Et j'ai dû prendre ce chemin, j'ai dû apprendre, j'ai dû comprendre. Et le premier pas sur ce chemin, le premier pas, c'est de dire « je ne peux pas, je n'ai pas envie ». Un truc qui a débloqué ma vie de prière, c'est de dire au Seigneur « j'ai pas envie de prier ». Seigneur, franchement, ça me gave. Je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on prie ? Qu'est-ce qu'il faut demander ? Ça me gave, je ne sais pas. Mais mon amitié avec Dieu a tellement grandi. Et je ne dis pas ça pour me vanter, vous comprenez. Je veux juste vous dire qu'il y a une joie et profonde, une amitié qui peut grandir avec Dieu. Et que non seulement c'est bien de le faire, mais surtout, vous en avez besoin. Tu en as besoin. Et c'est une joie, tu vas découvrir une joie profonde. À quoi ressemble ta vie de prière aujourd'hui ? Si tu as dit amen à tout ce que j'ai dit avant, et que tu ne pries pas, il doit y avoir un petit truc en toi qui s'allume, et qui dit, ouh, je veux ça. Je veux la joie et moi je veux cette joie profonde qui vient du fait que je dépends de Dieu, que Dieu est ma source et c'est tout ce que je veux et le reste, je vais porter du fruit. Alors le problème c'est que quand je dis comment va ta vie de prière, je sais que parmi nous, il y en a qui ne se sentent pas bien et c'est pas grave. Et quand je te dis comment va ta vie de prière, peut-être que tu entends... Combien de temps est-ce que tu pries par jour ou par semaine ? Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Parce que ça, et je voudrais aussi nous mettre en garde sur ce sujet, ça c'est la performance. Je dois prier, si je prie une heure, oh, il prie une heure par jour. Oh, le level, non, rien. Je vous garantis, moi aujourd'hui ça ne me suffit presque pas. Ça n'a rien, non. 5 minutes, 10 minutes, c'est pas ça qui compte. Sinon, vous allez commencer à comparer. Eh, tu pries combien, toi ? Ah, c'est tout. Oh, je vais faire comme toi. Ça va pas durer longtemps, je vous garantis. Moi, quand je te dis comment va ta vie de prière, je veux te dire à quel point t'es-tu mis en position, à quel point t'es-tu mis en position de dépendre de Dieu dans ce que tu fais ? À quel point demeures-tu en Christ ? À quel point ta confiance est en lui ? Je vois tellement de gens, et je vous le dis aussi très honnêtement, mais j'ai appris ça aussi, qui viennent et qui me disent « Ah, oh, j'ai prié pour ça, mais Dieu répond pas, il se passe rien, ça m'énerve. » Ça vous arrive jamais de dire ça ? Rassurez-moi, ça vous arrive. Ah bon, merci. Mais à quel moment tu dépends de Dieu ? À quel moment tu dis « Seigneur, je te prie pour ça, j'en ai besoin. Que ta volonté soit faite et je te fais confiance que tu vas faire au mieux pour moi. » Waouh, ça change tout, n'est-ce pas ? Merci. À quel point est-ce que tu t'attends à lui ? À quel point tu lui fais confiance pour traverser les circonstances de ta vie les plus sombres ? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le psaume 23. Tu traverses quelque chose, mais tu as les yeux fixés sur Dieu. Tu dis, ok, c'est la pagaille. Je ne sais pas où je vais. On me critique, on m'assaille, mais je suis avec toi. Donc je nous mets en garde contre le piège de la performance, dans la prière en particulier, mais dans tous les domaines. Ça, c'est le regard du monde. Le regard du monde va te dire, ta valeur dépend du niveau que tu vas atteindre. Ok ? Performance. n'ai pas le temps de détailler ça, mais c'est vraiment, c'est fondamental dans la prière. Dieu dit le contraire de ça, évidemment, puisque c'est la pensée du monde. Dieu dit, ta valeur, elle est en moi. Si tu vis en moi, tu porteras du fruit. Donc ta valeur, elle est déjà là, puisque je suis déjà là en toi. Et elle vient gratuitement. Laisse-moi manifester ma gloire au travers de toi. Chiche. Chiche. Je te dis chiche ce matin. Chiche, que tu laisses Dieu agir en toi surnaturellement. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à ça? Le monde a besoin de ça. Il n'a pas besoin de voir Karel. Il n'a pas besoin de voir Georges. Il n'a pas besoin de voir Nicolas. Le monde, il a besoin de voir Jésus-Christ en nous. Et pour que le monde voit Jésus-Christ, il faut que Jésus-Christ demeure en nous et nous en lui. C'est d'une logique implacable. Dieu dit, ta valeur est déjà là, elle vient de moi, ma gloire. C'est ma gloire de manifester ma présence en toi et au travers de toi. Et comme ça, ça te délivre de la comparaison. Alléluia, qu'est-ce que c'est libérateur ! Ça c'est bon ça. Oh, ça c'est, j'adore ça en fait. J'adore la prière pour ça parce que je ne dépends plus de qui je suis. Moi longtemps je me suis dit je suis nul ou je suis excellent. En fait je passais de je suis nul à je suis excellent à je suis nul à je suis excellent. Et là aujourd'hui ça n'a aucune importance. Dieu porte du fruit en moi, je le sais et je lui rends gloire pour ça. Pour terminer vite, quelques outils. Parce que développer sa vie de prière, ok, c'est bien, mais on fait comment? On fait comment? Alors déjà, je vais te dire une chose. Tu as besoin, c'est pas facultatif, de mettre, écoutez bien, tu as besoin de mettre du temps à part dans ce but, dans le but de communier avec Dieu, dans le but de la prière. Et de donner à ce moment une haute priorité. Tu leur dis, tu as besoin de mettre à part du temps dans ce but, du temps personnel, et de donner à ce moment une haute priorité. Il te faut un temps seul chaque jour avec Jésus et ne pas manquer ce rendez-vous. Tu peux dire, oh là là, non, tant pis, c'est dit. Tu as besoin, c'est un minimum même, en plus j'ai envie de dire, on est dans le minimum. Il te faut un temps seul chaque jour avec Jésus et ne pas manquer ce rendez-vous. Tu en as besoin, ton esprit en a besoin, ton âme en a besoin. Tu as besoin de demeurer en Christ. C'est vital. Tu as besoin que cette communion soit profonde et prolongée. Ne fais pas ça comme si tu faisais autre chose. Accorde à ce temps une haute valeur. On prie 10 fois plus quand on planifie du temps pour ça. Donc je vous conseille, ça c'est plus un conseil, mais planifiez-le. Vous planifiez ça, vous dites chaque jour de telle heure à telle heure, c'est mon temps de prière. Si c'est un quart d'heure, c'est un quart d'heure. Mais ce truc-là, c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire pour mon âme. Et pendant ce temps-là, je suis avec Dieu. Avec lui. Dans une communion profonde et prolongée. Je suis pas en train de rêvasser. Bon, ça m'arrive de rêvasser pendant la prière. Hein. Mais mon intention, c'est vraiment d'être en communion avec Dieu. Pour demeurer, parce que demeurer, c'est demeurer. Demeurer, c'est pas bonjour, au revoir. Quand vous êtes mariés, là, ceux qui sont mariés, si vous voyez votre femme une fois dans la journée, vous dites bonjour, au revoir. Au bout de 3 ans, ah bonjour, vous êtes qui? Non? Si vous passez un petit quart d'heure à passer temps avec votre époux, avec votre épouse, vous savez à quel point c'est qualitatif. Hein. C'est ça la communion. Donc, planifiez votre temps pour ça. Je vous encourage à le faire. Et vous allez voir, ça va multiplier votre vie de prière par 10. Wow. Ah, ça valait le coup de venir ce matin. Gloire à Dieu. Alors, après le reste, c'est des conseils. Mais le temps à part, sanctuarisé, profond, prolongé, planifié, ça, c'est immanquable. C'est mon immanquable avec Jésus. Après, c'est plutôt des conseils qui vont être liés à mon expérience pour vous aider. La première, c'est de prier le plus tôt possible dans la journée. Alors, je sais qu'on n'est pas tous du matin. Je sais qu'il y en a qui préfèrent prier le soir. Moi, j'ai décidé dans ma vie, et je ferai ça jusqu'à la fin de mes jours, à 5h30, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est passer mon temps avec Jésus. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'on est seul et qu'il n'y a personne qui gêne. C'est vrai qu'à 5h30, ça c'est génial, il n'y a pas un chien qui aboie, de temps en temps il y a un coq, mais ça c'est l'été quand le soleil se lève, mais t'es tranquille, c'est vrai, c'est pas ça, c'est tranquille. On est reposé, ouais. Mais moi je vais vous dire pourquoi je le fais. D'abord, la première chose, c'est parce que Jésus le faisait, et que je suis disciple du Christ. Jésus, il se levait avant le soleil et il allait prier. Ah, on est disciple de Christ, mais il y a des trucs. Ah, il faut faire. Ah, il y a ça aussi. Donc il se levait avant le lever du soleil, il allait prier. C'est la première chose qu'il faisait. Donc je fais comme lui, parce que je suis disciple du Christ. Et la deuxième raison, c'est parce que le premier visage que je veux voir le matin, c'est le sien. La première personne que je rencontre le matin, c'est lui. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie. Alors après, et puis dans la journée, pour prolonger, je dirais, ce temps du matin, parce que des fois on prie puis on repart dans nos activités, prenez des temps de 10-20 secondes tout au long de la journée, tac tac tac, pour prier un petit peu, un merci, une prière de reconnaissance, une petite demande, un petit je sais pas comment faire, comment je fais ça, Seigneur. 10-20 secondes réparties dans la journée. Et ça, c'est une vie de prière, mes amis. Vous allez découvrir quelque chose, une joie, je vous assure, profonde et transformatrice pour votre vie. Quatre choses que vous pouvez exprimer dans votre vie de prière. Les quatre exprimés, j'appelle ça. Alors j'ai un acronyme, mais il n'est pas très beau, alors bon, on va faire avec. L'acronyme, c'est redécobé. C'est comme ça que je m'en rappelle. Kobé. Non mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas, je parle pas en langue, c'est juste un... Redécobé, les quatre exprimés. Exprimer sa reconnaissance. Pour ce que Dieu fait et pour qui il est. Commencez votre temps de prière en disant « Ah Seigneur, tu es vraiment grand et merveilleux. » Sa reconnaissance. Merci pour ce que tu as fait, merci pour qui tu es. Exprimer sa dépendance. Reconnaître que nous ne savons pas faire, que nous n'avons pas de joie en lui par nous-mêmes, que nous avons péché, etc. Nous dépendons de Dieu. Reconnaître notre dépendance. Reconnaître que nous avons besoin de lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je fais juste une parenthèse, je vais te dire la suite après, mais... Si vous ne trouvez pas votre... Est-ce que vous trouvez votre joie en Dieu? Vraiment? Mais, ouais, moi aussi je dis amen, mais de temps en temps, il faut reconnaître qu'il y a d'autres choses dans lesquelles je trouve ma joie aussi. Voilà, on ne va pas dire le contraire. Mais il y a une lutte un peu à l'intérieur de moi. Au début, je me disais, la joie, c'est le monde, le plaisir, on va dire. Et Dieu, c'est plutôt autre chose. Mais ce n'est pas vrai. C'est faux, c'est un mensonge. Dieu veut qu'on se réjouisse en lui. Et si tu ne te réjouis pas en lui, en quoi te réjouis-tu? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est pas grave. On m'a dit que j'allais prophétiser ce matin, je ne sais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça, j'en sais rien. Merci Saint-Esprit. Donc exprimer sa reconnaissance, exprimer sa dépendance, exprimer sa confiance. Ça, c'est vraiment très important. Redéco. Donc ça, c'est co. La confiance. La confiance. C'est ce que la Bible appelle la prière de la foi. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quand je prie, je dis « Ah, Seigneur, je veux ça. » Au lieu de dire « Seigneur, j'ai besoin de ça. Je suis ton enfant. Je sais que tu vas me répondre. Si tu ne me réponds pas, c'est peut-être que tu as autre chose à me montrer, mais j'ai confiance en toi. Et je m'attends à ce que tu fasses quelque chose dans ma vie parce que tu aimes ça. Tu es mon Dieu. Exprimez à Dieu votre confiance. Choisissez, c'est un choix la confiance. Hein. La foi, c'est un choix. Hein. Choisir de s'attendre à lui. Refusez l'inquiétude, la peur. Ça ne vous arrive pas d'avoir peur ? Moi, ça m'arrive tout le temps. Quand ma fille est rentrée d'Angleterre, là, la semaine dernière, ils annonçaient la grosse tempête, là, sur la Manche. Ils rentraient dans la nuit. Le papa, il était comme ça. Elle va prendre le ferry alors qu'il y a des alertes rouges sur la Manche. Vous savez, le papa, il est là. Alors Seigneur, je te prie, je te remets ma fille. Et j'ai confiance que tu vas la garder. Parce que tu es son berger. Tu es son libérateur. Je refuse la peur. J'arrivais pas à dormir. Hein. Non, j'accepte pas la peur. Je refuse la peur dans ma vie. Je déclare que sa vie est dans les mains du Seigneur. Ça, c'est une prière qui change tout. Et la tempête a eu lieu un jour plus tard. Je ne dis pas que c'est grâce à moi, hein, j'en sais rien. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. J'accepte la grâce et le dernier, l'obéissance. J'exprime mon obéissance et le désir de vivre selon l'enseignement du Christ. Donc je dis redécobé, ça fait reconnaissance, dépendance, confiance, obéissance. Et dernière chose, excusez-moi, je déborde un peu. Qu'est-ce qui peut être des carburants dans votre prière ? Quand vous vous sentez un peu vide, que vous ne savez pas quoi prier, ça ne vous arrive pas ? Non ? Il y en a, ça ne leur arrive jamais, gloire à Dieu. Allez. Alléluia. Prier en langue, la parole, chanter en langue. Ouais, très bien. Pas beaucoup plus à dire, c'est bien. Alors, le carburant ultime de la prière, c'est la parole de Dieu. Il y a tellement de prières dans la Bible. Vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller. Vous ne savez pas quoi prier, vous ouvrez votre Bible, vous priez ce qu'il y a écrit. C'est facile. On l'a fait, on a prié avec la Bible jeudi. Avec qui c'est qui était là jeudi soir ? Sylvie, Marilyn, France. On a prié la Bible. Ah, comment c'est trop bien. Donc, décarburant. Laissez de la place à Dieu dans votre prière. Parce qu'on se dit, quand je prie, il faut que je remplisse le temps, en fait. Mais en fait, on peut laisser Dieu parler aussi, ça marche. Et il y a même des ordres monastiques qui invitent au silence. Parce que le silence, c'est pas facile, ouais, ça dépend des gens, mais le silence, ça aide à se décentrer aussi de nous-mêmes. Tu as quelque chose à dire, Lucien, je sens. Les armes d'Éphésiens 6 ? Super, la parole. Ben oui, c'est bien, très bien. Tu revais les armes le matin. Excellent, excellent, Lucien. Très bien, bravo. Donc, la parole de Dieu, le silence ou la place qu'on laisse à Dieu. Moi, je vais vous dire, hein. Quand je dis je prie une heure, j'ai pas dit j'ai parlé une heure. Hein. Dans ce temps-là, il y a du temps de silence. Pas assez, sans doute, mais il y en a un peu. Et le troisième chose que je voudrais vous laisser aussi, c'est se souvenir. C'est-à-dire, des fois, on ne sait pas quoi prier, alors que Dieu nous a bénis la veille, et on a oublié qu'il nous a bénis la veille. Quoi. Ça craint. Il suffit de vous rappeler combien Dieu a été bon dans votre vie, tout ce qu'il a fait pour vous. Pour ça, c'est bien de journaliser aussi. C'est bien d'avoir un petit journal pour noter tout ce que Dieu fait dans votre vie. Si vous ne l'avez pas, je vous invite. Se souvenir des promesses, des accomplissements, des rêves qu'il nous a donnés. Est-ce que je vous donne le petit dernier ? Allez, j'ai débordé, hein, mais... Allez, un petit dernier outil qui peut servir aussi avec un acronyme. Alors, c'est un acronyme en anglais, accrochez-vous. Mais vous pouvez faire une prière de communion. Vous voulez essayer ? Prière de communion, c'est très simple, avec le Saint-Esprit. Alors, ceux qui ont de quoi noter. La prière de communion avec Jésus par le Saint-Esprit. L'acronyme, c'est TRUST. T-R-U-S-T. Avoir confiance en anglais, hein ? Trust, to trust, se confier en Dieu. Trust. Donc T-R-U-S-T. Alors je vais faire l'anglais. Donc le premier T c'est thank you. Celui-là vous connaissez même si vous ne parlez pas anglais. Thank you. Merci de ta présence en moi. Merci à Saint-Esprit de ta présence en moi. Ensuite le R. Alors là, ça marche en français. C'est révèle-moi. Reveal. Révèle-moi le cœur du Père. Ouvre mes yeux. Fais-moi entendre sa voix. Saint-Esprit, ouvre mes yeux aux choses du ciel. Le U, ça marche aussi en français. Use me, utilise-moi. Utilise-moi pour les œuvres du Christ, Saint-Esprit, aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour te plaire? Comment je peux être disciple du Christ aujourd'hui? S, strengthen me, fortifie-moi en français. Fortifie-moi. J'ai besoin que tu me remplisses de force, de sagesse, de courage pour accomplir tes œuvres. Et le dernier, T, teach me, enseigne-moi. Enseigne-moi les voies du Christ. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci de nous avoir donné le don de la prière et de la communion avec toi. Merci parce que c'est un cadeau de toi que tu fais aux hommes. Tu dis c'est libre et gratuit. Tu dis il n'y a rien besoin de faire. D'ailleurs, on est incapable de faire par nous-mêmes. Mais tu es là et tu désires que nous demeurions en toi et toi en nous. Seigneur, je reconnais que ce n'est pas toujours quelque chose qui m'a attiré. Mais je reconnais aussi que je sais quelque part que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de communier avec toi. Je ne peux pas porter du fruit sans toi. Alors je veux apprendre. Je ne sais pas faire. Mais je veux bien demeurer en toi. Ce matin, je veux libérer un esprit de prière au milieu de nous. Je veux libérer un désir pour la communion avec le Christ. Je veux libérer le Saint-Esprit sur nous pour qu'il nous attire toujours plus à Christ et à l'œuvre de la croix. Je veux que cette œuvre de communion, d'alliance de la croix, cette œuvre de réconciliation puisse agir dans la vie de chacun. Et je te demande, Seigneur, de le faire maintenant. Et je crois que tu le fais. Que tu agis dans les cœurs pour donner de plus en plus envie de passer du temps avec toi et de se rendre compte que tout ce que nous faisons a besoin d'être plongé dans la communion avec toi. Tu es notre source, tu es notre bonheur, tu fais notre joie aussi. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui n'ont pas de joie en ce moment. Sois leur joie, toi-même. Tu es la plus grande des joies, tu es la plus grande des récompenses. Je te prie pour tous ceux qui ont du mal à prier. Je te demande d'ouvrir les agendas, et surtout les cœurs, Seigneur, mais d'ouvrir les agendas aussi, pour qu'il y ait du temps pour ça. Je te demande que dès demain matin, parmi ceux qui sont au milieu de nous, et peut-être tous, allez, puissent se dire, demain matin, la première chose que je vais faire, c'est passer du temps avec mon Christ, avec mon Seigneur. J'ai rien à faire, j'ai rien à apporter, j'ai rien de valeur, mais ma communion avec toi, c'est ma priorité. Je veux voir ton visage le matin en me levant et rayonner de ta gloire parce que ce monde a besoin de toi. Parce que j'ai besoin de toi. Parce que si je regarde ma vie avec mes yeux à moi, c'est mort. Mais si tu me montres vraiment, Seigneur, comment je peux être utile entre tes mains, libéré de la pression du résultat ou de la performance, mais sanctifié, enfant de Dieu, alors je vais porter du fruit. Et je te prie pour des fruits. J'ose te demander des fruits, Seigneur. Je ne te demande pas du succès dans cette église. Je ne te demande pas de la réussite. Je ne te demande pas de la popularité. Je te demande des fruits. Des choses qui demeurent au-delà de nous, qui se transmettent de génération en génération. C'est ça un fruit. Il va plus loin que nous. Il va porter du fruit dans les autres. Je vais être transformé. Je vais déborder. Et celui à côté de moi va être transformé par toi et va déborder. Voilà, et jusqu'à former, comme l'a dit Séverine la semaine dernière, des rivières de ta gloire au milieu de notre ville. Je te demande des fruits, Seigneur, dans nos vies. Et tous ceux pour qui c'est difficile en ce moment, qu'ils puissent retrouver la joie en toi. Seigneur, tu ne nies pas nos circonstances, tu ne nies pas nos difficultés. Tu nous dis, mais dans ces choses, je suis avec toi. Et je te délivre. Et je marche avec toi. Je suis ton Dieu. Seigneur, je veux accepter que tu manifestes surnaturellement ta gloire, ta présence dans ma vie. Et qu'en plus, je puisse en être heureux. Mets ta joie, Seigneur, dans ton peuple aussi. Libère-nous pour être un peuple qui a une joie profonde, parce que ce monde n'apporte que des choses artificielles, n'apporte qu'une joie superficielle, hypocrite, où on sourit devant et on est détruit à l'intérieur. Il ne peut pas en être ainsi dans le peuple de Dieu. Je refuse cela. Je refuse cela. Seigneur, je veux que notre source soit tellement en toi, que notre joie jaillit dans les bons comme dans les mauvais moments. Qu'on puisse être comme l'apôtre Paul qui disait, je peux être tourmenté, je peux être chassé, je peux être persécuté, je peux être frappé, mais je suis toujours dans la joie. Parce que j'appartiens au Christ et que je fais ses œuvres. C'est surnaturel, Seigneur. On ne peut pas faire ça tout seul. On a tellement besoin de ton Esprit Saint en nous, Seigneur. Tellement besoin de toi, Christ. De ta nature. De ta puissance. De ton amour. Fais-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et pour ta gloire. Amen.